Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, aujourd'hui l'interview sur Radio Diwa, que vous pouvez écouter également sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui nous recevons Bruno Monnier, bonjour.
Bonjour.
Et tu viens nous parler ainsi de la Maison Saine.
Oui.
Et c'est justement en abordant ce sujet que tu annonces un événement qui aura lieu le 12 septembre à 20h.
C'est ça.
À quel endroit ?
Alors voilà, j'invite les auditeurs à venir à cette conférence à 20h le 12 septembre qui va se dérouler à l'espace social et culturel du Diwa. Donc voilà, le bâtiment place de l'Évêché, il me semble, au niveau de l'adresse. Et voilà, je les invite à venir à cette conférence où je vais évoquer pendant environ 2 heures, avec le jeu des questions-réponses du public, eh bien, tous les enjeux de l'habitat sur le plan sanitaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que chez soi, on vive dans un environnement sain, donc évidemment chez soi, mais aussi pourquoi pas sur son lieu de travail. On vit dans un environnement sain, c'est-à-dire exposé à un minimum de pollution, que ça soit de pollution physique, de pollution de l'air, ou que ça soit des pollutions ou des nocivités qu'on pourrait appeler plus énergétiques également, comme les perturbations telluriques que peuvent être les veines d'eau, les failles, les fissures géologiques, etc. Donc j'aborde tous ces thèmes d'un point de vue un peu évidemment scientifique et puis aussi d'un point de vue purement géobiologique. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je vais parler.
Tu es géobiologue?
Oui.
Ou géobiologiste?
Alors on dit plutôt géobiologue. Moi je me présente comme conseiller en habitat sain géobiologue. J'ai tendance par habitude, à faire un petit peu de cette distinction. Pour moi, la géobiologie, c'est vraiment l'essence de mon métier, c'est-à-dire réaliser une étude du lieu dans lequel on vit pour savoir si ce lieu est bénéfique pour nous et comment on peut s'adapter pour que ce lieu le soit le plus possible, le plus bénéfique aux vivants. Et puis le conseil en habitat sain, c'est plus sur le plan scientifique et puis sur le plan des nouvelles pollutions que la vie moderne nous apporte, hein, parce qu'effectivement l'habitat évolue et les maisons qui existaient, dans lesquelles vivaient nos grands-parents il y a 50 ou 60 ans, ne sont pas du tout les mêmes maisons qu'aujourd'hui, donc elles apportent on va dire des nocivités qui n'existaient pas il y a 50 ans. Et il y a aussi notre connaissance de certaines pollutions qui ont également évolué. Hein. Par exemple, le radon, c'était donc ce gaz radioactif que j'évoque aussi pendant la conférence. Il y a 50 ans, on n'en parlait pas, on avait peu de connaissances sur ce gaz. Et aujourd'hui, on en sait un peu plus. Donc voilà, ça c'est plus la partie conseil en habitat sain. Donc sur ces plans-là, on fait de la mesure avec des appareils de mesure, de champs électromagnétiques basse fréquence liés au réseau électrique domestique, hein, tout ce qui est branchement, rallonge, multiprise, réseau électrique, etc. Ligne à haute tension aussi, et puis il y a la partie un peu plus populaire, on va dire, des hyperfréquences, que sont les antennes relais, le Wi-Fi, etc. Donc voilà, tous ces éléments, on va les mettre en évidence par le biais d'appareils de mesure, et puis moi, mon travail de conseiller en habitat sain, ça va être d'apporter du conseil, des solutions de remédiation pour faire en sorte que chacun diminue son niveau d'exposition à ces différentes pollutions dans son habitat.
Cette science, la géobiologie, elle est née quand, cette idée ?
On va dire que la géobiologie moderne, telle qu'on la conçoit au jour d'aujourd'hui, elle a repris vie, on va dire, dans les années 50, notamment par certains médecins allemands comme le docteur Hartmann et le docteur Curie, qui sont un peu les premiers qui ont, dans ces années-là, mis en évidence certains réseaux que l'on peut repérer aujourd'hui. Donc ces réseaux ne font pas consensus scientifiquement, hein, c'est-à-dire que les scientifiques déjà ne se sont pas vraiment intéressés à ces domaines-là et n'ont pas pu les mettre en évidence de façon objective, donc par le biais d'appareils de mesure, mais on peut les mettre en évidence que par le biais de ce qu'on appelle la détection sensible. Donc voilà, ça date des années 50, donc ces réseaux d'énergie portent le nom de ces médecins qui les ont détectés. Donc il y a le réseau Hartmann, le réseau Curie, etc. Mais on pourrait dire que c'est une science initiale ancestrale, car on retrouve, enfin certains géobiologues se sont longuement penchés, comme Georges Pratt par exemple, sur les constructions anciennes, donc les constructions celtiques, les constructions plus proches de nous, comme les constructions issues du christianisme, les cathédrales, les chapelles, etc., qui sont des constructions particulières qui ont été construites sur des lieux spécifiques. Et on sait aujourd'hui par la géobiologie que ces lieux ont été choisis en fonction d'énergie et de réseaux tout à fait particuliers, et que même l'architecture a été positionnée très précisément sur certains réseaux et pas sur d'autres pour participer, je dirais, à créer un lieu sacré et aider voilà, le profane à atteindre la spiritualité.
Au niveau du Diwa, est-ce que les constructions ou les édifices sont bien installés par rapport à ces ondes, ces fréquences?
Oui, alors sur ces énergies purement telluriques, oui, on retrouve des choses un petit peu partout. De toute façon, même si moi je viens plutôt de Bretagne, donc avec une culture un peu celtique, vraiment très riche, ne serait-ce que par les constructions mégalithiques, etc., les menhirs.
Un pays de croyances aussi.
Voilà aussi, donc il y a vraiment une profusion de sites sacrés. Moi, je découvre un peu cette région du Diwa, donc je connais un petit peu moins. Après, quelques chapelles où je suis allé faire quelques études comme ça, personnelles en géobiologie sur des chapelles, on retrouve effectivement quelques critères un peu standards, je dirais, d'une construction sacrée avec des éléments très particuliers à ces éléments-là qu'on ne retrouve pas n'importe où, quoi, et c'est sûr.
Et un regret par rapport à l'État, justement, qui ne reconnaît pas vraiment ce type de... La géobiologie n'est pas reconnue dans les instances officielles.
Oui,
en France, hein, je parle, parce que...
Oui, un regret, oui, parce qu'il existe d'autres pays, effectivement, où cette activité est vraiment plus reconnue, notamment en Suisse, proche de chez nous. Après, il y a plus un souci culturel, c'est-à-dire qu'en France, on est habitué que s'il n'y a pas de règles et s'il n'y a pas de loi pour encadrer des choses, on ne les fait que difficilement, quoi. Et on pourrait s'affranchir de ça et se dire on pourrait faire les choses même s'il n'y a pas de loi. Et là où c'est un petit peu plus problématique, où ça m'interpelle plus, moi, c'est plus au niveau des constructeurs qui font de la construction écologique, hein, parce que c'est très tendance aujourd'hui, hein, la construction bois, le retour aux matières nobles et naturelles, argile, paille, etc., qui est plutôt une bonne chose. Et dans ce concept d'éco-habitat, je pense que les notions d'habitat sain devraient être intégrées directement. Donc, comment construire une maison en bois sans champ électromagnétique, comment choisir l'endroit de la construction pour éviter une veine d'eau ou une faille géologique, ça devrait être intégré à ce processus de construction. Et là, je pense que je trouve en tout cas que les architectes ou les professionnels de la construction sont vraiment très, très, très frileux sur ce domaine, et là c'est très dommage. Ils me disent pour la plupart qu'ils sont déjà submergés, je les comprends, hein, de réglementation avec la RT 2012, tout ça est très compliqué, il faut qu'ils fassent appel à des thermiciens, enfin il y a tout un tas de couches qui s'additionnent et leur aspect créatif est drôlement contraint. Alors moi j'arrive avec des informations qui vont les contraindre un petit peu plus, mais c'est quand même important pour moi j'imagine qu'en tant qu'architecte, de se dire je vais produire un habitat où les occupants vont avoir une vie plutôt saine dans cet habitat que le contraire. Donc je pense qu'ils devraient embrasser volontiers ces expertises et les intégrer directement dans la construction écologique, quoi. Enfin voilà, ça devrait être systématique, et ça ne l'est pas.
Une personne possède une maison ou veut faire construire une maison. Comment ça se passe, le contact?
Alors, bien souvent, soit c'est des gens qui ont eu cette information, s'ils sont intéressés, ont assisté à une conférence, ont lu des livres, etc., ou sont allés voir sur le net et se sont sensibilisés à cette démarche, et du coup ils m'appellent, ils me trouvent par l'intermédiaire souvent de mon site internet ou par l'intermédiaire de réseaux de géobiologues.
C'est quelle adresse d'ailleurs, le site internet?
Alors mon site personnel, il est très facile à trouver, on peut taper sur le moteur de recherche bien connu géobiologue Drôme et on me trouve, et sinon le site s'appelle mamaisonscène.com avec un tiret entre le ma et maisonscène, voilà, www.mamaisonscène.com.
Donc un site très explicite pour répondre aux questions.
Oui,
des,
voilà, c'est-à-dire que je
visiteurs.
Exactement sur ce site, bah, j'exprime un petit peu quelles sont les pollutions qu'on peut retrouver dans l'habitat d'une façon un peu générale pour déjà donner quelques informations. Après, j'explique comment je travaille. Il y a évidemment les tarifs qui sont affichés en toute transparence. Et puis, bah, voilà, un formulaire de contact comme tout site. Et donc, bah, souvent, on m'appelle soit avant construction, qui est évidemment l'idéal, puisque là, on va se nourrir de tout un tas d'informations avant son projet de construction. Donc, des informations très concrètes qui vont permettre de placer la maison au mieux en fonction des énergies qui se trouvent sur le lieu. Donc évidemment, on va éviter de mettre les chambres et les pièces de vie en dehors des zones de perturbation tant que possible. Et puis après, évidemment, je délivre tout un tas d'informations sur comment réaliser un habitat sain au niveau de la qualité de l'air, au niveau des champs électromagnétiques, comment on peut faire pour que les choses soient bien réalisées, la prise de terre, etc. etc. Donc voilà, on démarre son projet de construction avec tout un tas d'informations. Dans un bâti existant, bah, là, on fait à peu près la même chose, mais évidemment, les contraintes sont différentes parce que la maison existe déjà, les pièces sont déjà conçues, etc. Donc c'est toujours un peu plus compliqué, je dirais, mais on trouve quand même souvent des solutions, il n'y a pas de souci. Et après, moi, je n'oblige pas, c'est du conseil, c'est-à-dire que chacun est libre de mettre en place les solutions, les remédiations que je vais proposer en fonction de ses budgets, en fonction de ses moyens, en fonction du temps qu'on a pour les réaliser. Etc. Il y a des choses, des réalisations ou des solutions qui sont des fois très simples à mettre en place, qui sont juste des réflexes de vie, et puis d'autres fois en fonction des mesures qui vont être un peu plus complexes, et voilà, des fois on peut mettre un peu plus de temps à les mettre en œuvre.
Et Bruno, tu es installé dans le Diwa depuis quelque temps, je ne sais pas exactement combien.
Eh bien, ça va faire là un an tout pile, moi, que je suis arrivé installé à Saillant.
Et est-ce que tu as pratiqué déjà cette technique dans le Diwa?
Oui, mais bien sûr.
C'est de l'ordre privé, je suppose.
Comment ça?
Les personnes pour qui tu as exercé tes...
Ah oui, là, c'est que du privé. C'est que du privé. Donc, encore une fois, c'est soit des gens qui sont en projet de construction. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des projets d'achat aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps qui voulait acheter une maison près de Charmes-sur-Rhône, qui avait une ligne à haute tension très proche de la maison. Donc, elle avait un peu cette inquiétude. Donc, elle a préféré faire des mesures pour avoir une idée assez précise de ce à quoi elle allait être exposée. Et du coup, influer sur son choix, est-ce qu'on va prendre cette maison ou est-ce qu'on va pas la prendre. Voilà, donc il y a eu ce genre de choses. J'ai eu quelqu'un à Dix aussi cet été qui m'a appelé parce que il a aménagé dans un appartement et depuis qu'il est dans cet appartement, eh bien il ne dort plus, il dort mal, il se réveille fatigué, etc. Donc on a fait une étude purement géobiologique pour savoir s'il y avait des choses dans cet appartement et on a trouvé effectivement des éléments. Donc il a fallu qu'il redispose, malgré que c'était petit, il a fallu qu'il redispose un peu l'organisation de sa chambre pour être en dehors de ces zones de perturbation. Voilà.
Et ça va mieux depuis?
Tout à fait, ça va mieux. Voilà. Souvent, il suffit de pas grand-chose. Des fois, il peut y avoir des choses un peu complexes à mettre en œuvre, mais c'est assez rare. Le plus souvent, c'est des choses assez faciles à mettre en œuvre. Et encore une fois, c'est plutôt des réflexes aussi de vie. Donc, par exemple, dans sa chambre, même si moi, avec la mesure, je mets les choses objectives et visibles, eh bien, ça va être d'éloigner tel objet qui produit un champ électrique, etc. Ou éteindre tel objet de telle façon. Enfin, voilà. C'est difficile de donner des généralités parce que chaque cas est un peu particulier.
On ne peut pas estimer non plus le coût ou donner un coût en fonction de la superficie des bâtiments ou...
Parce que moi j'ai fait des prix forfaitaires, on va dire, pour que ça soit simple aussi, et pour moi d'ailleurs, et pour le client. Après, les études sont plutôt à la carte, c'est-à-dire que soit on m'appelle pour une étude géobiologique, soit on m'appelle pour une étude de champ électromagnétique, soit on m'appelle pour une étude de qualité de l'air, soit des fois on m'appelle pour, on peut cumuler géobiologie et champ électromagnétique. Donc pour donner des tarifs comme ça... un peu rapide, une étude de géobiologique, ça coûte 180 €, une étude de champ électromagnétique, donc pour une maison complète, une étude de champ électromagnétique complète, champ électrique, champ magnétique, basse fréquence, haute fréquence, etc., de toutes les pièces, qualité de la prise de terre, etc., ça coûte 229 € pour une maison jusqu'à 150 m². Tous les tarifs sont notés pour une maison jusqu'à 150 m² ou un terrain à construire jusqu'à 1500 m². Et après, évidemment, plus c'est grand, bah, plus je passe du temps, évidemment, et plus c'est long. Donc, le tarif augmente après pour les grosses maisons ou les gros terrains, évidemment.
Et ta formation initiale, c'est quel corps de métier?
Alors, c'est des formations privées est spécifique à la géobiologie ou à l'habitat sain. Donc il y en a quelques-unes en France, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup en plus de très bonne qualité, il y en a quelques-unes. Et moi, comme j'étais en Bretagne, j'avais la chance d'en avoir une réputée proche de chez moi, donc près de Vannes dans le Morbihan.
Étais-tu intéressé au niveau international s'il y avait des pays qui suivaient ce genre de sciences biologistes géobiologie.
Oui, alors comme je le disais tout à l'heure au début, évidemment.
En dehors de l'Europe, je voudrais savoir.
Alors en dehors de l'Europe, non, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe en dehors de l'Europe sur ces plans-là. Non, je sais qu'au Canada, ça existe et on fait appel à ce corps de métier. En Allemagne, ça existe depuis très longtemps. Alors en Allemagne, c'est plus sur la pollution aussi moderne, champs électromagnétiques, qualité de l'air, radioactivité, etc. Et en Allemagne, ça s'appelle la baobiologie. Et c'est quelque chose de très connu et très reconnu. C'est un métier qui existe et qui est officiel. Et puis voilà, en Suisse, comme je l'ai dit, où même pour des constructions publiques, hein, administration, écoles ou hôpitaux, eh bien, pas toujours évidemment, mais en tout cas régulièrement, on fait appel à des géobiologues avant construction et avant de réaliser le projet.
Et tu abordes aussi les matériaux qui sont utilisés en construction ou décoration,
oui.
Et leur nocivité, si elles sont... vérifier ou...
Bien sûr, parce que on va dire que dans le pack de nocivité de l'habitation, on pourrait définir plusieurs axes. Il y a le lieu, proprement dit, sur lequel va être posée la maison, le terrain, le sous-sol. Il y a ensuite l'environnement, qu'est-ce qu'il y a autour de ce terrain. Et puis après, il y a la construction même. Les matériaux qu'on emploie, comment est faite cette construction, l'aération, etc. L'exposition, évidemment, rentre en ligne de compte. Et après, il y a ce qu'on apporte nous-mêmes en tant qu'occupant, en tant qu'habitant dans cette maison. Voilà à peu près les quatre axes. Et donc, évidemment, les matériaux rentrent en ligne de compte dans l'aspect sanitaire du logement. Évidemment, aujourd'hui, les matériaux naturels ou d'origine naturelle qui subissent le moins de transformations possibles industrielles sont évidemment les plus sains. Hein, le bois, la paille, l'argile, la terre, etc.
Une question subsidiaire, oui. La peinture sans odeur, nocif ou pas?
Alors, c'est pas tellement qu'elle soit sans odeur qui fait qu'elle sera nocive ou pas nocive, ça va être ses composants. Et donc, ça va être plutôt les éléments qui la font. Et alors là, vous avez par contre, donc ça j'en parle dans la conférence, vous avez aujourd'hui une réglementation d'information sur ce qu'on appelle la quantité de COV par litre. Donc les COV, je le rappelle, c'est ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, qui sont des polluants de l'air. Donc ce sont des éléments liquides dans la peinture, mais qui se dégazent ou dégagent à l'air libre. Et donc là, vous avez des informations qui font référence au diagramme des réglementations thermiques. Vous savez qu'un A, B, C, D, etc. Donc évidemment, plus vous êtes vers les A+, A++, moins vous avez de COV, etc. Et puis après, vous avez vraiment le chiffrage. Donc logiquement, en 2015, toutes les peintures devraient être inférieures à 1 gramme de COV par litre. Donc dès l'instant où aujourd'hui vous choisissez des peintures, essayez bien de regarder ça, et plus vous êtes proche de ces 1 g de COV par litre, ben moins vous allez être exposé après avoir peint et redécoré votre habitation.
Merci Bruno. Je rappelle cette conférence qui sera donnée à l'espace social et culturel du Diois le 12 septembre à 20h.
C'est ça, exactement.
Ce sera une soirée conférence,
oui.
Et aussi débat,
exactement.
Avec le public.
Voilà.
Et d'ailleurs, Bruno, si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu pratiques, je les invite à suivre des émissions auxquelles tu as déjà participé, hein, c'est ça?
Oui, parce que vous m'avez offert cette chance de pouvoir enregistrer 5 émissions sur ces thèmes. Donc il y a un thème en fait par émission qui dure environ une heure. Donc il y a un thème sur les champs électromagnétiques basse fréquence, il y a un thème sur les hyperfréquences, il y a un thème sur le radon, la qualité de l'air, et un autre sur la géobiologie. Et donc voilà, pour les gens qui n'auraient pas la possibilité de venir me voir en vrai à cette conférence, ils peuvent, je pense, écouter ces émissions en podcast. Je pense
sur le site de la radio.
Hein,
il suffira de taper Bruno Monnier,
voilà.
Et puis le moteur de recherche vous donnera toutes les émissions auxquelles tu as participé.
Exactement.
Je te remercie Bruno.
Merci Yves.
Et bonne soirée.
Merci,
interview.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Hey, the bird.